en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Personnage, personnalité, caractère, le meilleur et le pire. Le thème fut décliné durant toute l'année 2003 par l'Académie des sciences morales et politiques, présidée alors par M. Emmanuel Leroy-Ladurie. Chaque lundi, un académicien ou un invité extérieur présentait une communication évoquant, illustrant ce thème. Au mois de mars 2003, André Damien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, présentait une communication sur Jean-Paul II. Nous écoutons tout de suite André Damien.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier honoraire, lorsque vous m'avez donné ce sujet, vous me l'avez imposé, je n'ai pas vraiment choisi, j'ai été transporté de joie car je me disais que c'était un sujet extrêmement intéressant. Je suis beaucoup moins vaillant aujourd'hui car j'en connais les difficultés. Mais je suis extrêmement sensible à la présence de Monseigneur Honoré, Son Éminence le cardinal Jean Honoré, qui m'honore de son amitié depuis si longtemps et qui a eu la gentillesse de venir, malgré les difficultés ferroviaires, car ce n'est pas facile de venir de Tours à Paris, on est remonté au Moyen-Âge. Alors, puisque je ne connais pas intimement le pape Jean-Paul II, pourquoi m'avoir donné cette tâche? Je crois, cher président, qui ne pouvait pas vous tromper parce que vous êtes infaillible pendant la durée de votre présidence, que vous avez voulu prendre le croyant d'en bas, qui, ne voyant le pape que de loin, a peut-être une idée plus exacte, en tout cas une impression, que celle des croyants qui l'approchent quotidiennement. La vision lointaine n'est pas la plus inexacte, même si elle est la moins renseignée. J'ai trouvé un exemple dans la littérature française de l'arrivée de la mention du culte pontifical. Elle est dans un conte de 1875 d'Alphonse Daudet, intitulé « Le pape est mort », que vous connaissez tous. C'est l'histoire d'un petit Avignonnais qui est parti à se baigner dans le fleuve et qui rentre après une journée pleine de soleil, d'oiseaux et de marches, et qui arrive avec beaucoup de retard et qui voit sa mère qui l'attend anxieuse sur le perron de la maison. Et alors, que lui expliquer? Et brusquement, dit Daudet, il eut cette idée étonnante, « Maman, le pape est mort ». Je vous signale que Pie IX mourra que 3 ans après, ça ne lui a pas porté malheur du tout. Et Daudet décrit le père très grave, la mère atterrée, chacun citant à l'envi quelques traits de vertu de ce pape, Pie IX. Peu à peu, la conversation s'égarait à travers l'histoire des papes. Tante Rose parla de Pie VII, qu'elle se souvenait si bien avoir vu passer dans une chaise de poste entre deux gendarmes. On rappela la fameuse scène avec l'empereur, commediante et tragediante, que notre ami Tullard a complètement dévissé, si je puis dire, puisqu'elle est pratiquement totalement inexacte, ou en grosse partie. Et la grande citation de Daudet, c'était bien la 100e fois que j'entendais raconter avec les mêmes intonations et les mêmes gestes, et ce stéréotype des traditions de famille qui se lèguent et qui restent les plus puériles et locales comme des histoires de couvent. Alors voilà ce que je voudrais éviter aujourd'hui, mais la tentation est proche, puisque je connais le pape, j'ai été impressionné par sa présence, puisque je suis catholique, je l'aime. Donc à ce moment-là, je suis pris dans le piège de la géographie et il va falloir que je m'en dégage. Alors j'ai essayé de m'en dégager par le haut en cherchant avec vous quel est le trait dominant et la nouveauté radicale de ce pape par rapport aux autres. Les papes, autrefois, était peu connu. C'était le cardinal Neveu, le secrétaire d'État, qui était le plus connu. Le pape restait une figure lointaine. Les papes de l'époque de Louis XIV ou de Louis XV sont connus des historiens, mais pas du peuple chrétien. Pie VII a été connu par ses malheurs. Pie VI aussi, enterré à Valence, mort dans des conditions tragiques, mais on a vite oublié parce que c'était nécessaire de le faire. Pie VII, restaurateur de l'Église de France, est resté connu un certain temps. Et puis c'est Pie IX qui a tout absorbé, parce qu'il a été le plus long pape depuis Saint-Pierre, et parce qu'il a été le pape roi, puis le pape prisonnier, l'homme persécuté par la famille d'Italie. Donc ce pape chargé de chaînes morales, hein, parce qu'il n'a pas été chargé de chaîne physiquement, a été devenu l'objet d'un véritable culte dont des personnalités comme Monsieur de Ségur, etc., ont entretenu le souvenir dans notre Église de France. Alors, depuis, il y a eu des papes qui ont eu, j'allais dire, un grand succès médiatique, Pie XII, dont la campagne qu'on mène sur lui est d'une injustice grave, etc. Bon, passons. Le pape Jean-Paul II a évité ces critiques excessives. Il a bénéficié de ce succès charismatique et même cette revue que je n'aime pas, le canard déchaîné de l'Église qui s'appelle Goliath, n'ose pas tellement attaquer le pape, ou elle le fait avec une certaine discrétion parce que ça se vend mal. Je vous signale que Goliath est une revue fabriquée par des prêtres du diocèse de Lyon et certains laïcs, des pieux laïcs sans doute, qui passent son temps à dire des méchancetés généralement fausses sur les évêques et qui a publié, à la manière du Michelin, un guide des évêques et qui les a affublés, comme dans le Michelin, il y a 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile, les affublés de mitres. Alors, l'un évêque à 3 mitres, c'est pas mal. Un évêque à 1 mitre, c'est un homme conciliaire, pontifical et sans grand intérêt. Si l'évêque de Parthénia est figuré, il aurait 4 mitres au moins en raison de l'originalité de sa pensée et de sa grande communicabilité. Alors, je reviens à mon sujet. Le président s'inquiète. Le trait dominant de notre pape et sa nouveauté radicale est un renouveau de foi et de la prière dans l'Église, renouveau en profondeur plus qu'en apparence et sans précédent au cours de ce siècle. Je crois que la caractéristique de l'histoire de l'Église depuis un siècle, c'est que l'Église d'avant la Révolution était une Église de chrétienté, sûre d'elle-même, autoritaire et unie en apparence du moins. Et puis arrivent brusquement les grandes angoisses de l'Église, la réforme, le jansénisme, les agitations philosophiques du siècle des Lumières, l'ère révolutionnaire qui arrache à l'Église son statut social, qui lui est rendu chichement par Bonaparte. Et ensuite, l'apparition du modernisme, avec ses 2 cris de détresse, excessifs à mon sens, que sont Pace Saint-Di et Lamentabili de Pie X. Le résultat, c'est que l'Église devient obsidionale. Elle est assiégée. Et comme toute citadelle assiégée, elle relève le pont-levis, elle met des guetteurs, et on prépare la poix brûlante et les catapultes pour lancer sur l'ennemi qui est dans la plaine et qu'on attend de pied ferme. Donc c'est une église fermée sur elle-même, et même avec un exemple, la bénédiction Urbi et Orbi qui se donne à Rome avec quel succès médiatique aujourd'hui, a été donnée depuis 70 jusqu'aux accords de Latran dans la logia intérieure de Saint-Pierre et non pas sur le balcon extérieur. Donc l'Église s'était refermée sur elle-même et je pense que le monument, le document le plus exceptionnel de ce refermement de l'Église sur elle-même et de cette prudence devant les ennemis nombreux qu'on découvrait partout, c'est un texte que vous connaissez tous, c'est Miraevos de Grégoire XVI, dont le nom était mort capellari, c'était un camaldule, qui a condamné en bloc et sans grande nuance les idées de démocratie, de liberté, d'égalité, de fraternité et même la liberté de la presse. Miraevos, qui est oublié aujourd'hui, mais c'est lui qui va condamner Lamennais, chez qui il y avait encore des braises ardentes dont on aurait pu faire quelque chose, et est un monument qu'on qualifierait aujourd'hui d'obscurantisme. Et je dis qu'à côté de Miraevos, Quanta Cura et le Syllabus, c'est-à-dire les textes de Pie IX, sont des textes libéraux et prudents. Et surtout dans l'interprétation qu'en donna Monsieur Dupanloup, qui a été finalement ratifié par le pape Pie IX lui-même. Alors, cette doctrine de l'encerclement obsidional, malgré les atténuations qui aperteront Léon XIII et Pie XI, subsiste jusqu'à la fin du XXe siècle. Et voici brusquement, avec l'apparition de Jean-Paul II, une révolution copernicienne qui s'opère. C'est la formule audacieuse qui proclame pour la première fois sur la place Saint-Pierre le 22 octobre 1978, puis à Cracovie, à Paris, au Bourget, qui fait partie de sa doctrine, « N'ayez pas peur ». Alors, à la limite, il n'a peur de rien. Les gestes qu'il pose, il les pose avec une audace singulière, un mépris du candidaton et de l'opinion de ceux qui s'émeuvent de tout. Dans ce type de mépris du candidaton, c'est la première assemblée d'assises de 1986, dans lequel le pape rassemble autour de lui dans une démarche spirituelle des représentants des différentes croyances. Alors, les catholiques hermétiques, je ne donne pas un autre mot, je ne dirais pas intégristes parce que ce n'est pas vrai, je dis hermétiques, ils ont l'esprit hermétique. Ils ont vu du latitudinarisme, qui est une erreur, une théologique grave, qu'on vous définira plus tard. Et alors qu'il s'agissait simplement d'une attitude de respect à l'égard de la notion même de religion. Finalement, le pape a une vision sociale audacieuse mais sereine, et pour la première fois, il n'est pas assiégé. Il a passé par-dessus le rempart, il est dans la plaine, faisant ce qui lui semble bon pour l'Église. Il veut que l'homme prenne conscience de ce qu'il vit dans une confrontation permanente avec l'athéisme, c'est son anthropologie. Alors le texte « N'ayez pas peur » que vous avez tous connu est tiré de l'Écriture puisqu'il est dans les quatre évangiles, les trois synoptiques et saint Jean. Donc on ne peut pas trouver un texte qui soit plus évangélique que ce fameux « N'ayez pas peur ». Et alors le pape a dit ultérieurement que s'il a été conscient de la portée inattendue qu'a eu avec le temps ces mots prononcés à l'aube de son pontificat, il ne se rendait pas compte, à l'époque où il les a prononcés pour la première fois, de la portée qu'ils auraient, pour moi, dit-il, et pour l'Église tout entière. Donc, c'est un esprit nouveau qu'apporte le message de Jean-Paul II. C'est pas une doctrine nouvelle, on la connaissait, mais c'est un esprit nouveau. Alors, qui est ce pape qui vise avant tout à relancer l'Évangile dans le monde, à aider l'union entre les Églises, et qui est si audacieux dans ses démarches et dans sa parole? Et c'est d'abord le premier pape slave de l'histoire. Et il apporte par sa slavisation même un aspect nouveau que l'histoire caractéristique de la Pologne explique bien. La Pologne est un îlot de romanité dans la chrétienté de l'Est, seule église catholique depuis 966 dans l'océan de l'église d'Orient. La Pologne a choisi Rome et la chrétienté latine plutôt que l'orbite de Constantinople. Et à partir de cette date, ce peuple slave a été ouvert vers l'Occident latin et a voulu jouer le rôle de pont entre les deux moitiés culturelles européennes. La foi ardente de la Pologne et sa situation géographique sont à l'origine de son tempérament culturel et paradoxalement, cette église de Pologne, pas paradoxalement, c'est tout à fait normal, a profondément marqué Jean-Paul II et du coup a marqué l'église. L'Europe entière a été marquée. Gorbatchev a dit en 1994 que Jean-Paul II avait joué un rôle crucial dans la révolution pacifique qui a mis fin à la guerre froide. C'est un élément que nous pouvons retenir. Alors, son histoire est simple. C'est un Polonais qui est né le 18 mai 1920 à Wadowice, petite ville de 15 000 habitants de la Pologne méridionale, à 40 km de Cracovie et à 30 km d'Auschwitz. Son père est un officier de l'armée austro-hongroise. En 1918, il est liquidé. Il arrivera à travailler dans l'armée jusqu'en 1928, et là, il devient demi-solde. C'est un homme de bien, un homme d'une foi ardente. La mère du pape, du futur pape, meurt en 1929, alors qu'il n'a seulement que 9 ans. Et son frère, qui est médecin, meurt en 1932 d'une scarlatine contractée au chevet des malades de l'hôpital de Biesko, où il était médecin. C'est donc son père qui l'élève seul et qui lui enseigne la foi et la piété. Karol Wojtyla, puisque tel est son nom, est né dans une Pologne indépendante depuis le traité de 18, mais bientôt divisée pour la quatrième fois avec le pacte Molotov-Ribbentrop. Il a 19 ans au moment de la guerre. Il vit dans une petite ville où plus du quart des habitants sont juifs. Dans l'église de Wadowice, rappelle le pape, au moins un quart des élèves étaient juifs. Et il se lie d'amitié avec un jeune condisciple, une amitié, dit-il, qui s'est poursuivie depuis les bancs de l'école jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire à son élection au siège de Saint-Pierre. Jamais un pape, depuis Saint-Pierre, n'avait eu une telle, dans sa formation d'homme, des rapports aussi continus avec les juifs. C'est une chose qu'il faut noter. Cet enfant pieux, cet élève exemplaire, est distingué par le cardinal Sapieha, archevêque de Cracovie, qui lui demande un jour s'il n'a pas songé à devenir prêtre. Il lui répond pas du tout. J'ai envie de faire des études. Il fait des études de littérature, de langue et de littérature polonaise à l'université. Et apparaît une nouvelle vocation pendant le lycée, c'est le théâtre. Il devient comédien amateur, il réussit fort bien, il fait de la mise en scène. On admire son talent et un de ses condisciples dit qu'il avait tout pour réussir, la voix, la gestuelle et la mémoire. Et plus tard, il écrit des essais de théâtre et des poésies. En 1939, l'occupation allemande met fin avec brutalité à cette vie paisible qu'il menait à l'université et au théâtre. Cracovie est dans la zone occupée par l'Allemagne. Les professeurs de l'université sont déportés, arrêtés puis déportés en Allemagne. Tous les Polonais sont astreints au travail obligatoire. On sait ce que c'est. Et Karol Wojtyła fuit les rafles. Il craint la déportation en Allemagne et il se fait ouvrier pour avoir une situation qui lui permette d'échapper à la police. Et il devient carrier de pierre aux usines Solvay, bien connues dans le monde. Alors ses camarades de travail, mais Henri Amouroux, vous le direz, on a des exemples identiques en France, ses camarades ouvriers l'ont un peu choyé, chouchouté, ils l'ont empêché d'avoir des travaux trop durs pour son âge, il est jeune, et lui permettait de lire et de travailler pendant les pauses. Mais il a découvert à cette occasion la vie du travailleur manuel, et dans un discours il dit « J'ai appris ce que signifiait le jeûne et l'effort physique ». Je côtoyais chaque jour des gens qui travaillaient dur, j'ai connu leur milieu, leur famille, leur centre d'intérêt, leur valeur humaine et leur dignité. Il est le premier pape, depuis les papes martyrs condamnés à de métallas dans les débuts de l'Église, à avoir travaillé de ses mains. C'était sans exemple, et je crois que c'est assez important. En 43, à la mort de son père, il annonce au cardinal Sapieha son intention de devenir prêtre. Et pour cela, il devient séminariste clandestin, puisque les séminaires sont fermés, mais que le cardinal de Cracovie a groupé des jeunes dans son palais épiscopal et leur enseigne ou leur fait enseigner la théologie, la pastorale et la spiritualité. Il est ordonné prêtre le 1er novembre 1946 et part faire des études à Rome, au collège angélique, celui des dominicains. Puis il profite de ce long voyage à l'époque où Varsovie et Cracovie étaient si loin de Paris et de Rome pour visiter l'Europe, Paris notamment. La mission de France, les prêtres ouvriers, et il découvre la personnalité de l'abbé Godin, que vous connaissez tous, grâce à France Pays de Mission, qui est un livre fondamental, qui est paru au lendemain de la Libération. Il soutient une thèse de théologie, repart pour la Pologne, et obtient son doctorat, et son premier poste est d'être aumônier d'étudiants. Il s'y révèle un pasteur moderne, très à l'aise avec les jeunes. Il n'a pas changé. Ce qui prouve que ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de dynamique intérieure. Il publie une revue d'étudiants, vite interdite, car il avait refusé de publier un éloge de Staline en 1953. Il devient professeur de théologie morale à l'Université catholique de Lublin, poste qu'il conservera jusqu'à son élection au siège de Saint-Pierre. Son enseignement est très classique, thomiste, enrichi par Maritain, Emmanuel Mounier, dont il a découvert les œuvres en France en l'été 47. Toutefois, si on se reporte à ses cahiers d'enseignement, on s'aperçoit que sa théologie morale est classique, mais assez originale, notamment sur le mariage. Il enseigne en effet que si le mariage a pour fin première la procréation, ce que nous savons tous, qui est écrit partout, dans les bons livres, il a également pour fin l'achèvement de la personne des époux, en développant une éthique sexuelle fondée sur l'amour. L'amour, expression de la responsabilité individuelle vis-à-vis d'un autre être humain et de Dieu. Or, cette affirmation si classique aujourd'hui, qui est dans le code de droit canon, qui est dans le catéchisme de l'Église universelle, qui est même dans les travaux du Concile, était audacieuse à l'époque où Karol Wojtyła l'a prononcée, puisque 10 ans avant, le théologien allemand de Breslau, Herbert Doms, avait été condamné pour avoir dit que si la procréation est la fin principale du mariage, là, c'est le chèvement de la personne des époux est une fin secondaire, mais également principale. Formule heureuse d'un théologien qui essaye de passer entre les gouttes et d'échapper au Saint-Office et de dire quand même ce qu'il a à dire. Mais le Saint-Office n'est pas si méchant que ça. Le 14 juin 1958, Pie XII, 3 mois avant sa mort, nomme l'abbé Wojtyła évêque auxiliaire de Cracovie. Il a 30 ans. Alors, le gouvernement polonais, aussi intelligent que le gouvernement français aujourd'hui, fait faire pour son chef du ministère de l'Intérieur, un rapport sur ce Wojtyła. Qui est-il? Ce rapport n'est pas sot, vous allez le voir. Il est dévoyé parce que le bureau des cultes de Pologne est totalement communiste, mais ce n'est pas idiot. On peut dire avec certitude, dit ce rapport, que Karol Wojtyła est un des rares intellectuels de l'épiscopat polonais. À la différence du cardinal Wyszyński, le primat, il concilie habilement la religiosité populaire traditionnelle et le catholicisme intellectuel, et il sait apprécier les deux. Il n'est pas aussi impliqué que le cardinal primat dans des activités ouvertement hostiles à l'État. Il semble que la politique ne lui soit pas naturelle. et il a une approche bien trop intellectuelle, il manque de qualité d'organisation et de commandement, c'est sa faiblesse dans sa rivalité avec le primat de Pologne. Rivalité tout à fait stupide, mais que les gens du bureau avaient inventée. On doit observer et étudier chaque aspect des rapports entre le cardinal primat de Pologne et le nouvel archevêque de Cracovie, et adopter à son encontre une politique souple pour nous adapter aux changements de circonstances. En d'autres termes, ne pas rentrer de pied ferme contre lui pour ne l'obliger à coller avec le primat. On doit encourager l'intérêt de Wojtyla pour les problèmes d'ensemble de l'Église polonaise et l'assister pour résoudre les problèmes de son archidiocèse. Alors, lorsqu'il apprend qu'il est nommé évêque, il est dans un camp de jeunes qu'il anime et ils sont en train de faire du kayak. Alors, il repart pour Cracovie et puis il repart ensuite pour faire du kayak avec ses jeunes jusqu'à la fin prévue par le camp. Et c'est la première session du deuxième concile de Vatican, rassemblé par Jean XXIII. Alors, comme tous les évêques du monde, il a été amené à faire une lettre préparatoire aux travaux du concile. C'est un sort de pensum dans lequel on indique les changements ou les idées fortes que l'on veut voir apporter. Et il insiste sur la nécessité pour les prêtres d'avoir un contact plus étroit avec tous les aspects de la vie d'homme et du monde, y compris les sports et le théâtre. Donc vous retrouvez bien ces préoccupations qui transpirent dans cette lettre. Il demande que la vocation et la responsabilité des laïcs dans l'Église puissent s'exercer davantage. Ça, c'est déjà l'annonce de Christi Fidelis Laici, qui n'est pas mentionné puisque ça n'existe pas, mais c'est cette idée. Concernant l'œcuménisme, il demande qu'on mette moins l'accent sur ce qui divise que sur ce qui rassemble, ce qui n'est pas sot. Il demande une rénovation de la liturgie, une réforme du bréviaire, et qu'en réponse au matérialisme croissant, on soutienne une présentation d'éthique fondée sur le personnalisme chrétien. Enfin, il demande que dans le schéma des Ecclésias, le chapitre relatif au peuple de Dieu soit placé avant celui relatif à la hiérarchie, ce qui était contraire à l'optique du droit, code de droit canon de l'époque, mais qui lui paraissait plus juste, et c'est ce que prendra le Concile et le catéchisme de l'Église universelle. Ce que je me permets de signaler par ces travaux et cette présence, c'est que le cardinal Wojtyla a été formé par le Concile. Il en est vraiment l'enfant du Concile et il le montrera dans le synode. C'est-à-dire que dans le dictionnaire de Goliath, il aurait droit à une mitre seulement, puisqu'il est conciliaire, ce qui n'est pas bien. Et encore, il n'aurait peut-être pas la mitre complète, sans les fanons. Et deuxièmement, c'est ce qui explique ce que les gens ne comprennent pas. L'opposition entre l'Église schismatique de Mgr Lefebvre et le pape. Le pape a été, parce qu'il a un cœur paternel, au plus loin des concessions pour la liturgie. Il permet, il vient de faire célébrer par le cardinal Hoyos, chargé de la constitution Ecclesia Dei Afflicta, une messe de Saint-Pie V, en latin, dos au peuple, dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, là où est enterré Saint-Pie V. Donc ce n'est pas une question embarrassante, cette messe en français et en latin, ce n'est pas un problème. Le problème que la plupart des intégristes français ne savent pas, parce qu'ils ne sont pas instruits, ils sont comme la plupart des laïcs français, ils ne connaissent rien. Le problème, c'est que la tendance Lefebvre ni la valeur du Concile et les valeurs qu'il a apportées à l'Église, car si le Concile n'était pas dogmatique mais pastoral, il est quand même un instrument d'autorité, et ça, ils n'ont pas compris. Et ils ont pris l'effet pour la cause, la restauration d'une liturgie plus moderne, plus active, liée au temporal et non pas seulement au sanctoral, ils n'ont pas compris, et on ne comprend pas quand on voit dans les journaux que le pape autorise une célébration en latin, que ça n'a rien à voir avec le problème fondamental qui sépare un certain nombre de chrétiens de grands courants de l'Église universelle. Alors, devenu archevêque de Cracovie en 60, puis cardinal en 67, il réunit un synode pour appliquer le concile, et ce synode, il l'ouvre à tout le monde, tout le diocèse. Ce qui fait qu'on commence avec 325 participants et on termine avec plus d'un millier à la fin du synode. C'est cette attention au peuple, à son peuple. Sur le plan politique, il ne s'est jamais opposé directement au régime communiste, si ce n'est en condamnant l'athéisme régnant en Pologne, mais il est diplomate et audacieux. On lui refuse de créer des paroisses. Il crée des centres pastoraux, sans lieu de culte, qui sont l'embryon de paroisses, qui seront créées par la suite, à force de récrimination près du régime. On empêche sa voiture d'arriver à Nova Utah, on ne veut pas qu'il vienne à Nova Utah. Eh bien, il part à travers champs et à pied. Et brusquement, là où on ne l'attendait pas, la voiture étant bloquée, les policiers voient arriver le cardinal de Cracovie à pied. Ils n'ont pas pu le bloquer. On taxe lourdement des prêtres. Et l'un d'entre eux est mis en prison parce qu'il n'a pas pu payer les impôts vexatoires qu'on lui avait infligés. Le cardinal ne proteste pas. Il vient simplement dans la paroisse d'où ce prêtre a été arraché par les gendarmes le matin. Et il dit « Désormais, je prends les choses en main et je serai jusqu'à la libération du prêtre le curé de votre paroisse. » 8 jours après, le prêtre était libéré. En d'autres termes, il ne peut pas publier un journal. Il diffuse des textes polycopiés que les curés ont mission de reproduire à leur tour de façon à ce que chaque fidèle puisse les avoir en main. Les dirigeants communistes veulent réquisitionner son séminaire pour en faire une école de pédagogie. Ils protestent, puis transigent. Le deuxième étage sera l'école de pédagogie et les deux premiers étages restent grand séminaire. Et ils ont fini par marcher. Il a une méthode de contact personnel, de résistance calculée, amplifié par des résonances médiatiques qui en font un adversaire redoutable du régime, ce que le bureau des cultes de Pologne, dans le texte que je vous ai lu tout à l'heure, n'avait pas totalement saisi. Sa méthode est différente de celle du cardinal Prima, mais elle est tout aussi efficace. Sa notoriété augmente parce que, d'une part, il a été rapporteur au symposium de 75, au congrès eucharistique de Philadelphie, il a prêché à la curie une retraite en 76, et tous ses voyages pour visiter les communautés polonaises de l'émigration à travers le monde, lui ont valu auprès des Polonais, mais auprès des pays étrangers et des évêques étrangers, des cardinaux étrangers, une notoriété grandissante. Alors, l'élection comme pape. D'abord, au conclave qui a suivi la mort de Paul VI et où sera élu le cardinal Albino Luciani sous le nom de Jean-Paul Ier, le cardinal Wojtyla avait obtenu, d'après ce qu'on dit, car là, il y avait encore le secret, des vota di calore pendant les premiers tours. Ça ne veut rien dire, mais c'était des marques de politesse, des coups de chapeau. Au second conclave, alors là, on le connaît parce qu'il l'a révélé, sans toutefois enlever les prescriptions de Paul VI concernant le secret du conclave. Il sera élu au 8e tour, avec 99 suffrages sur 111 votants. Et d'après les vatinologues, ou après les confidences échappées au pape ultérieurement, 3 cardinaux s'étaient détachés dans les premiers tours du conclave. Le cardinal Siri, qui recueillait les suffrages des traditionalistes, le cardinal Bellini, qui recueillait les suffrages de ceux qui désiraient la continuation de la réforme de Paul VI, et lui-même enfin, qui, peu à peu, est arrivé aux 99 voix nécessaires pour être élu. Mais selon lui, dès le deuxième tour, tout était clair. Son élection, qu'il craignait, il l'a craint pour plusieurs raisons. Et notamment pour une, qui était assez simple, c'est qu'il n'était pas italien. C'était le premier pape non italien depuis 4 siècles, étranger à la curie, et il craignait l'accueil du peuple de Rome qui était massé après la Fumata Bianca dans la place Saint-Pierre, au moment où le premier cardinal diacre vient d'annoncer l'élection du pape et son nom. Et alors, dès qu'il prend contact avec la foule, il dit « Les cardinaux ont nommé un nouvel évêque de Rome, et ils l'ont appelé d'un pays lointain. » Lointain, mais également toujours proche, par la communion de la foi et de la tradition chrétienne. Je ne sais si je peux m'expliquer dans votre, puis il corrige tout de suite, dans notre langue italienne. Si je me trompe, vous me corrigerez. Et il dit, mi corrigete. Et la foule qui a entendu cet italo-latinisme, qui est régulier mais irrégulier, applaudit à tout rond parce qu'elle a bien senti cet effort pour employer une langue qui n'est pas la sienne, mais qu'il parle remarquablement, comme beaucoup de langues d'ailleurs. Alors il continue, sur le trône de Saint-Pierre à Rome, se trouve un évêque qui n'est pas romain. Un évêque est un fils de la Pologne, mais dès ce moment, il devient romain. Oui, romain. Et il martèle ce mot. Et au cours de son pontificat, aucun pape avant lui n'avait autant visité Rome qu'il ne l'a fait. Il est vraiment le pasteur de Rome, et ce n'est pas seulement le cardinal vicaire qui fait cette tâche, c'est lui-même qui a visité combien de paroisses. Alors, quel trait tirer de marquant de ce pontificat? Rien d'abord qui n'ait été esquissé dans le Concile. Peu d'innovations en matière dogmatique. pas de définition. Le classicisme du pape est total, aussi bien en matière théologique que de morale, et notamment de morale sexuelle. Ce qu'il a dit sur l'avortement, c'est ce qu'avaient dit toujours tous les papes. Ce qu'il a dit sur la pilule, c'est ce qu'avaient dit toujours tous les papes. Et si certains imbéciles n'ont pas compris et ont essayé de faire des campagnes en disant « pape assassin », c'est qu'ils n'avaient rien compris à rien. Et de toute façon, ils ont été exploités par une presse qui n'avait rien compris non plus à rien, ce qui est fréquent parfois. Pas d'ordination des femmes, malgré une majoration de leur place dans l'Église, voulue et proclamée par le pape. Pourquoi pas d'ordination des femmes? Parce qu'elles sont inférieures, pas du tout. Parce que le prêtre est ordonné in persona Christi, et non pas in natura Christi, et que dès lors, une femme ne peut pas être prêtre, mais il y a des tâches merveilleuses qui lui sont confiées. Aucune innovation dans le fonctionnement de la curie, avec quand même des déclarations claires et nettes qui manifestent que la curie, malgré sa liberté, doit exprimer la doctrine du pape et non ses interprétations personnelles. Quelqu'un que je rencontrais, qui est en mauvais esprit sans doute, disait « La curie a tendance parfois à se croire infaillible elle aussi ». C'est sûrement pas vrai. Mais il est évident que le pape a su donner une certaine autorité sur les plans de dogme à sa curie. Je donne un exemple. Le chargé de communication du Saint-Siège déclare à une conférence de presse « Les États ont le droit de se défendre, même si cela entraîne des morts d'hommes ». Rectification immédiate par le secrétariat particulier du pape. Le chargé de la communication n'a parlé qu'en son nom propre, puisque le pape, à plusieurs reprises, a fait part de sa critique de toute guerre, quelle qu'elle soit. C'est pas une nouveauté. Vous le trouvez dans Pie XII, vous le trouvez même dans quelqu'un qu'on considère aujourd'hui comme d'un classicisme excessif, le cardinal Ottaviani, qui a dit toujours la même chose sur la guerre juste, sur la guerre défensive, etc. Mais c'est la rectification, avec cette brutalité, est quelque chose d'un pape qui tient en main sa curie. Il y a aussi quelque chose qui m'a frappé, c'est cette réforme de l'Église de France avec les archevêchés métropolitains. Je ne sais pas si je me suis trompé dans la vision du pape, mais j'ai l'impression que c'est un moyen, non pas de reprendre en main l'Église de France, qui a toujours été blottie dans la main du pape avec fidélité et dans celle de ses représentants, mais de montrer bien que les vieux archevêchés ne correspondaient plus à grand-chose et que les nouveaux archevêchés seront maintenant les porte-parole du pape et seront ses interlocuteurs privilégiés. Il n'y a plus d'élection à l'intérieur de cette assemblée des évêques de France. C'est maintenant les archevêques métropolitains qui seront les patrons de leur région. Le pape a un charisme certain pour s'exprimer d'une manière originale et nouvelle, notamment sur un point qui est fondamental dans sa doctrine, c'est l'appel universel à la sainteté. On avait toujours pensé, surtout au début du siècle, 19e, que la sainteté était réservée à des saints, mais que les laïcs n'étaient pas concernés par cet appel à la sainteté. Eux, ils vivaient, comme disait Gratien, M. Foyer saurait mieux la citation que moi, « Deus sunt genera Christianorum », les uns qui partent vers la sainteté, et les autres qui diraiment leur querelle et qui usent du mariage. C'est à peu près ça, le texte de Gratien, « Deus sunt genera ». Eh bien, voilà ce que dit le pape. Cet engagement vers la sainteté n'est pas l'apanage de certains chrétiens, les religieux et les moines. Tous les fidèles du Christ, quel que soit leur état ou leur rang, sont appelés à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité, je traduis à la sainteté. Ce serait un contresens de se contenter d'une vie médiocre, vécue sous le signe d'une éthique minimaliste et d'une religiosité superficielle. Et alors, le discours aux pèlerins de Lisieux de 1687 est extrêmement important. Il raconte le pèlerinage de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus enfant à Lisieux, où elle est venue en ayant pris une voiture de louage voir le pape. On lui avait dit de pas parler, puisqu'on ne parle pas devant le pape, et elle s'est jetée à ses pieds en lui demandant de pouvoir entrer tout de suite au Carmel avant d'avoir l'âge. Le pape a répondu sagement, que la volonté de Dieu soit faite, voyez votre évêque, c'est lui qui, etc. Moyennant quoi, quand elle est sortie, il n'y avait plus qu'une voiture, c'est celle du vicaire général de Lisieux, et elle s'est fait tenser sévèrement. Néanmoins, elle est entrée au Carmel, et elle est aujourd'hui sainte du Paris des docteurs de l'Église. Et il dit, sans entrer vous-même au Carmel, à tous les fidèles qui sont là, vous avez à vivre comme des laïcs chrétiens ces deux dimensions essentielles de toute vie baptismale. Convertissez votre vie journalière, hebdomadaire et mensuelle pour respirer Dieu. Voilà des propos précis, quête de la sainteté par des moyens précis auxquels on n'avait pas été habitué, car des formules plus pieuses peut-être, mais moins percutantes, étaient données depuis longtemps. Il appartient au laïc auquel il a donné une importance, la suppléance, n'est-ce pas ? Il appartient au laïc de découvrir la vocation qu'il a l'air en cherchant le royaume de Dieu et en gérant les affaires temporelles et en les ordonnant selon Dieu. Les laïcs, parce qu'ils sont chargés de la gérance du temporel, doivent s'efforcer de résoudre les contradictions d'une croissance économique, culturelle et technologique qui offre de grandes possibilités à quelques privilégiés, laissant des millions de personnes non seulement en marge du progrès, mais aux prises avec des conditions de vie bien inférieures au minimum qui leur est dû en raison de leur dignité humaine. C'est la même liberté de langage que le pape emploie à Haïti, à Cuba, en condamnant ce qui doit l'être, et en condamnant, ça a été mal interprété par certains, des pages sombres ou grises de l'histoire de l'Église, les repentances pour Galilée, l'Inquisition, la traite des Noirs, les mauvais traitements employés vis-à-vis des Indiens, la persécution des Juifs, les mauvais traitements pendant les croisades envers les musulmans d'une part et envers les chrétiens d'Orient, car le sac de Constantinople par les Vénitiens a été aussi grave que le sac de Constantinople par les Turcs. Alors, je voudrais donner un exemple de cette liberté du pape. C'est d'abord ses voyages. On en est à plus de 100. La tradition est de Paul VI. Le pape a bougé. Mais il a un art de voyager, malgré les difficultés actuelles, qui est différent, notamment dans les conférences de presse qu'il donne en avion, où il parle librement, en apparence, tout au moins, avec les journalistes. Il se laisse poser des questions quelconque, et il répond toujours avec une prudence qui ne l'engage pas au-delà de ce qu'il veut s'engager. Mais le dialogue paraît extrêmement libre et fécond, ce qui n'était plus le dialogue officiel d'un journaliste prosterné à genoux au pied du pape et demandant et attendant des réponses ou des oracles sacrés. Il est le pape de la parole et de la parole improvisée personnelle, plus encore que de la parole écrite et de documents, encore qu'il écrit de fort beaux documents. Alors, deux petites particularités. La réhabilitation du corps. Le corps dans l'Église était quelque chose qui était un peu mal vu. N'est-ce pas ? Aussi bien l'hygiène, etc., étaient des choses qui, dans nos séminaires des années 1890-1900, étaient vues avec une certaine réticence. Or, le pape est un grand sportif, il a fait du kayak, c'est un alpiniste, il a fait construire une piscine à Castel Gandolfo, et par deux traits que j'ai tirés, il montre cet intérêt pour le corps. Le premier est pour une raison théologique. Par le fait que le Verbe s'est fait chair, le corps est entré dans la théologie, c'est-à-dire dans la science qui a pour objet la divinité. C'est clair comme le jour, et il en sort des applications. La première, c'est qu'il fait réouvrir la chapelle Sixtine et il fait déculoter les anges reculottés par un pape qu'on avait appelé le culottier. Et parce qu'il n'a pas peur du corps, ça ne le dérange pas de voir ces anges, ces poutis présentant des fesses capiteuses et belles sur le plan d'esthétique. Deuxième attitude, cette liberté. À Gênes, au palais des sports, grande foule, une petite fille vient lui apporter des cadeaux au nom de ses 13 000 camarades. Elle vient devant le pape, elle lui donne le cadeau. Qu'est-ce qu'il fait ? Il embrasse sur le front. Ensuite, il la refile à son voisin, qui est le cardinal Siri, lequel lui donne son anneau à baiser. Le pape a substitué le baiser sur le front au baiser de l'anneau, plus conforme aux usages, mais ce geste est révélateur d'une mentalité et d'une nouveauté pour l'Église qui semble ne plus avoir peur du corps ni du sexe. Deux mots encore, et puis après j'ai fini, je rassure mon président qui commence à être inquiet. Deux mots, c'est la paix. La paix. Alors, le pape a toujours été pour la paix et il l'a montré avec efficacité. Il a été pour la paix au moment des Malouines. Il a été pour la paix au moment de la première guerre du Golfe. Il a rappelé sa doctrine pour la Bosnie. En pleine opération Tempête du désert, il intervient trois fois, message de Noël, discours au corps diplomatique, lettre au président Bush senior. Cette fois-ci, les efforts du pape en faveur de la paix se sont manifestés d'une manière encore plus solennelle au moment de la guerre d'Irak. Efforts auprès du président Bush d'une part, et des Irakiens, d'autre part, et de l'ONU, condamnant la guerre préventive et conseillant l'acceptation des inspections de l'ONU pour vérifier l'absence d'armes nucléaires, chimiques et bactériologiques. Le pape a provoqué une rencontre entre Monsieur Torrent et le sous-secrétaire d'État américain chargé du contrôle des armements et de la sécurité internationale. Le but de cette rencontre n'était pas d'édulcorer la condamnation pontificale vigoureuse qu'il avait faite contre cette guerre, mais de considérer maintenant ce qu'il faut faire, c'est-à-dire l'importance de l'aide humanitaire indispensable pour sauver des vies humaines, de lutter contre les effets des armes de destruction massive et de régler le conflit israélo-palestinien, toile de fond de la guerre de l'Irak. Alors, la question pour le Saint-Siège, et ça qui est important, n'est plus de juger cette guerre qui a été déjà condamnée après des mises en garde nombreuses. Mais le passé est le passé, soyons présents et à venir. Mais d'essayer de poursuivre l'engagement humanitaire et de faire en sorte que l'ONU puisse jouer un rôle de premier plan dans la reconstruction annoncée de l'Irak. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que le sous-secrétaire d'État américain, dans un communiqué d'hier, du 9 avril 2003, a assuré Mgr Torrent, pour le souverain pontife, que le gouvernement américain s'engageait à trouver une rapide solution au conflit israélo-palestinien. Nous nous en réjouirons tous. Et ce que vous allez remarquer, c'est qu'il n'y a pas eu d'excommunication pour le pape et sa doctrine, comme il y en a une pour la France. Pour une raison peut-être très simple, c'est qu'il y a beaucoup plus de catholiques en Amérique que de Français en Amérique, et que M. Bush, en bon démocrate, n'a pas osé mettre le pape en cause, alors qu'il sait combien l'Église est puissante aux États-Unis. Je ne dis pas et combien le pape a raison, mais enfin, ça peut peut-être venir. Après l'attentat du 13 mai 81, le pape est un homme de douleur qui assume actuellement la fonction de souverain pontife avec des souffrances physiques certaines. Sans pour autant songer à démissionner, ni à mettre fin à un mandat qui lui a été conféré par l'Église et par Dieu. Il sait que ses jours sont comptés, et il le dit, surtout à partir de 1994, il parle de sa mort. Mais pour autant, son récent voyage en Pologne et à Madrid n'a absolument pas diminué sa présence, son activité, cette manière d'être en contact avec les jeunes, qui est assez extraordinaire. Alors, Jean-Paul II sera jugé par l'histoire, c'est-à-dire par les historiens, par les gens de métier, comme tous ses prédécesseurs. Mais j'espère qu'on gardera le souvenir d'un des plus grands pontifes de ce siècle, pas seulement des plus longs, mais un des plus grands. Ce n'est pas un réformiste à sensation, il n'y a pas de dogme nouveau. Il a inauguré une forme nouvelle de l'exercice du ministère de Pierre qui doit être reconnu par tous. Aucun pape de demain ne pourra oublier l'apport incontestable qu'il a apporté à l'Église et à la fonction pontificale. Il est prêt à tout discuter, remettre à plat dans le respect de la doctrine et notamment dans Uti Deum Sainte, il remet en cause même l'exercice de la fonction pontificale en se disant prêt à en discuter avec nos frères qui ne sont pas dans l'unité de l'Église catholique. Il a donc été prêt à remettre en question la papauté dans le respect de la doctrine, bien entendu. Alors, je pense que ce pape est un des plus grands que nous ayons eu. Il a donné des textes, même en latin, que tout le monde a lus. Christi Fidelis Laici, Novo Millennio in Eunte sont, à mon avis, des textes extraordinaires. Quand il a été élu, on a cru que c'était un pape polonais qui venait avec la tradition polonaise, avec une certaine étroitesse d'esprit ou une certaine liaison avec des idées, et notamment un conformisme liturgique. On s'aperçoit que c'est un révolutionnaire, les Polonais aussi savent l'être, qui a apporté des structures nouvelles et qui a réussi à dépasser toute une série de choses. Je pense donc que le bilan de ce pontificat est riche, bien qu'il ne soit pas terminé, et qu'il sera aisé aux historiens de demain de déterminer que le pontificat de ce pape venu de l'Est aura été un des plus féconds et des plus importants, car il a ouvert des perspectives nouvelles au seuil du troisième millénaire. Merci, Monsieur le Président.
C'était André Damien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, le lundi 22 mars 2003. André Damien présentait donc une communication sur Jean-Paul II. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce texte et ceux des autres communications sur le site internet de l'Académie des sciences morales et politiques, www.asmp.fr. Vous pouvez également les écouter quotidiennement, bien sûr, sur Canal Académie.